chapitre 22 à 21 jusqu'au chapitre 23. Le Seigneur m'a dit, « Va, je t'envoie au loin, vers tous ceux qui ne sont pas juifs. » Les gens ont écouté Paul jusqu'au moment où il dit ces mots. Mais maintenant, il se met à crier, « Supprimez cet homme, à mort, il ne mérite pas de vivre. » Ils poussent des cris, ils jettent leurs vêtements en l'air et font voler la poussière. Alors le commandant des soldats romains donne cet ordre. Faites entrer Paul dans la caserne et frappez-le à coups de fouet pour l'obliger à parler. Je veux savoir pourquoi la foule crie contre lui de cette façon. On va attacher Paul pour le fouetter. Mais à ce moment-là, il dit à l'officier qui est présent, vous voulez fouetter un citoyen romain que vous n'avez même pas jugé. Est-ce que vous en avez le droit? Quand l'officier entend cela, il va prévenir le commandant. Qu'est-ce que tu allais faire? Cet homme est citoyen romain. Alors le commandant vient trouver Paul et lui demande, « Dis-moi, est-ce que tu es citoyen romain ?» Paul répond, « Oui. » Le commandant lui dit, « Moi, j'ai dû acheter très cher le droit de devenir citoyen romain. » Paul répond, « Et moi, je le suis depuis ma naissance. » Ceux qui voulaient frapper Paul pour l'obliger à parler le laissent aussitôt. Quand le commandant se rend compte qu'il a fait attacher un citoyen romain avec des chaînes, il a peur. Le commandant veut savoir de façon sûre pourquoi des chefs juifs accusent Paul. Donc, le jour suivant, il donne l'ordre au chef des prêtres et à tout le tribunal religieux de se réunir. Il libère Paul de ses chaînes, il le fait amener et le place devant eux. Chapitre 23. Paul regarde en face les membres du tribunal et il dit « Frères, j'ai toujours vécu pour Dieu jusqu'à maintenant et je n'ai rien à me reprocher. » Mais le grand prêtre Ananias commande à ceux qui sont près de Paul « Frappez-le sur la bouche !» Alors Paul lui dit « C'est toi que Dieu va frapper, espèce de mur blanchi. Tu es assis là pour me juger d'après la loi et tu donnes l'ordre de me frapper. C'est contraire à la loi. » Ceux qui sont près de Paul lui disent « Tu insultes le grand prêtre de Dieu. » Paul répond « Frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. En effet, dans les livres saints, on lit « Tu ne diras pas du mal du chef de ton peuple. » Paul le sait. Certains membres du tribunal sont sadducéens et d'autres sont pharisiens. C'est pourquoi devant eux, il dit d'une voix forte « Frère, je suis pharisien et fils de pharisien. » Comme eux, j'ai l'espoir que les morts se relèveront, et c'est pour cela qu'on me juge. Au moment où Paul dit cela, les pharisiens et les sadducéens se mettent à se disputer, et l'assemblée se divise en deux camps. En effet, les sadducéens disent, « Les morts ne se relèvent pas, les anges et les esprits n'existent pas. » Mais les pharisiens croient le contraire. Tout le monde se met à crier. Quelques maîtres de la loi du groupe des pharisiens se lèvent et disent avec force « Nous trouvons que cet homme n'a rien fait de mal. Un esprit ou un ange lui a peut-être parlé. » Ils se disputent de plus en plus. Le commandant a peur qu'ils ne mettent Paul en morceaux. Alors il donne cet ordre aux soldats. « Descendez, faites sortir Paul du tribunal et ramenez-le à la caserne. » La nuit suivante, le Seigneur se montre à Paul et dit « Courage, tu as été mon témoin ici à Jérusalem. Il faut aussi que tu sois mon témoin à Rome. » Un piège est tendu à Paul. Le jour suivant, certains juifs se réunissent en secret. Ils jurent devant Dieu. « Nous ne mangerons rien et nous ne boirons rien avant de tuer Paul. » Ceux qui ont juré cela sont plus de 40. Ils vont voir les chefs des prêtres et les anciens et ils leur disent « Voici ce que nous avons juré devant Dieu. Nous ne prendrons aucune nourriture avant de tuer Paul. Maintenant donc, les autres membres du tribunal doivent nous accompagner chez le commandant romain et vous lui demanderez de faire venir Paul devant vous. Vous direz que vous voulez étudier son affaire de façon plus exacte. De notre côté, nous sommes prêts à le tuer avant qu'il arrive ici. » Mais un neveu de Paul, le fils de sa sœur, entend parler de ce piège. Il va à la caserne, il entre et prévient Paul. Alors Paul appelle un des officiers et lui dit « Conduis ce jeune homme chez le commandant, il a quelque chose à lui annoncer. » L'officier emmène le jeune homme, il le conduit chez le commandant et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé, il m'a demandé de t'amener ce jeune homme, il a quelque chose à t'annoncer. » Le commandant prend le jeune homme par la main, il l'emmène à l'écart et lui demande « Qu'est-ce que tu as à me dire ?» Le jeune homme répond « Certains juifs sont d'accord pour te demander d'emmener Paul demain devant leur tribunal. Ils diront qu'ils veulent étudier son affaire de façon plus exacte. » Mais ne l'y crois pas. En effet, plus de 40 hommes vont tendre un piège à Paul. Ils ont juré devant Dieu de ne rien manger et de ne rien boire avant de le tuer. Maintenant, ils sont prêts. Ils n'attendent plus que ta réponse. Alors le commandant dit au jeune homme, « Ne raconte à personne ce que tu viens de me dire. » Puis il le laisse partir. Le commandant appelle deux de ses officiers. Il leur dit, « Rassemblez 200 soldats, 70 cavaliers et 200 hommes armés. Ils doivent être prêts à partir pour Césarée à 9h du soir. Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul en toute sécurité devant le gouverneur Félix. »
On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin pour t'as demandé de venir nous rencontrer. Seigneur, lorsque j'étudiais ce passage, j'étais en train de voir combien tu étais là dans la mission avec Paul et combien la mission était difficile parce qu'il avait tellement à cœur d'annoncer ton amour, Seigneur, annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Je prie de venir nous rencontrer dans ce passage ce matin, de venir toucher nos cœurs pour nous montrer combien tu aimes les hommes et combien tu es là, tu nous accompagnes, Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, parce que tu t'es donné, Seigneur, pour le salut des hommes en mourant sur cette croix, et parce que tu prends à cœur que des hommes partout sur la terre, des femmes, des enfants en viennent à entendre ton évangile, Seigneur. Viens et bénis-nous ensemble ce matin. C'est en Jésus-Christ que je te le demande. Amen. Vous savez, on a à cœur de voir des gens entendre l'Évangile. Il y a une image dans le Nouveau Testament qui représente semer comme quelque chose comme ça. Et puis des fois, on est en train de semer et puis on le fait pendant des années. Ce matin, j'étais en train de penser à nos missionnaires qui arrivent de France. Et pendant plusieurs semaines, ils sont allés, se sont adressés à des foules, ils ont semé la parole n'importe où comme ça. Puis des fois, on fait ça pendant des années. Pendant des années, on sème et on lance et on sème. Et il y a quelque chose de frustrant là-dedans parce qu'il y a des gens qu'on a à cœur et on voudrait voir l'Évangile grandir dans leur cœur. Ce matin, le passage qu'on regarde, le passage des Actes, a une parole pour vous qui avez à cœur des gens et qui semez comme ça depuis des années et qui trouvez ça décourageant parce que vous ne voyez pas de fruits. Et ce message-là, c'est « Prends courage ». Prends courage, parce que malgré les apparences, malgré qu'on a l'impression qu'on est juste en train de lancer cela et que tout ça est laissé au hasard, tu dis « je vais garocher ça n'importe où, puis peut-être que ça va donner des fruits », malgré cela, Jésus-Christ est en train de diriger les opérations. Il y a quelqu'un à quelque part qui est en train de diriger tout cela. Et c'est ce que le livre des Actes a à nous dire ce matin. Jésus-Christ est en train de diriger ces opérations-là. Je le dirais comme ça, Jésus nous dispatche au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir semer la parole. Il y a quelqu'un qui est au contrôle. On retrouve Paul ce matin dans le livre des Actes. Et essayez d'imaginer la scène un instant, parce que vous avez probablement le plus grand prédicateur de l'Évangile de tous les temps. Je veux dire, après Jésus, probablement que Paul a été le plus grand prédicateur de l'Évangile, peut-être le plus grand missionnaire de tous les temps. Et vous avez cet homme-là, les Juifs veulent le tuer, littéralement. Les Romains l'ont attrapé pour le protéger, lui ont mis les fers aux pieds, il se retrouve en prison. Il ne peut plus annoncer l'Évangile. Alors, où est-ce que ça s'en va, cette affaire-là? Où ça s'en va? Ça donne quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au contrôle de quelque chose là-dedans? Jésus avait donné une promesse avant qu'il soit arrêté, qu'il soit crucifié. Il avait donné une promesse. Il a dit, « Je bâtirai mon Église. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au contrôle ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de diriger les choses? Justement, dans le passage de ce matin, on voit intervenir la souveraineté de Dieu de manière concurrente avec les décisions que Paul va prendre. Et on voit très bien que Jésus-Christ est en train de diriger les opérations. Jésus est au contrôle de ce qui est en train de se passer, même si moi, comme individu, j'ai l'impression que je suis juste en train de semer n'importe où, puis je me dis, est-ce que ça va donner quelque chose, tout ça? Jésus-Christ est derrière cela, souverainement, il est en train de diriger les opérations. Jésus dispatche ses témoins. Jésus s'est servi lui-même de cette illustration-là du semeur. Si vous êtes familier avec les évangiles, vous savez, c'est une image que Jésus a utilisée pour dire lui-même, on sème la parole, ça tombe partout, et puis des fois ça va porter du fruit, des fois ça ne portera pas du fruit. Ça dépend aussi de la terre dans laquelle ça va tomber. Donc, c'est une image biblique. J'aimerais s'en ajouter une autre ce matin pour illustrer ce qui est en train de se passer ici dans le passage. Parce que cette image-là du semeur, c'est un aspect de cette mission où nous annonçons l'évangile. Mais il y a un autre aspect qui sort dans le passage ici, dans le livre des Actes. Et ce serait plus l'image du SWAT team, d'accord? Vous avez déjà vu des équipes d'intervention tactique? Ben, ça ressemble à ça, ce qui est en train de se passer ici. Et la personne qui est aux commandes de l'hélicoptère, ben, c'est Jésus-Christ, d'accord? Parce que c'est ça qui est en train de se passer dans ce passage. Jésus est en train tout simplement de dispatcher son homme pour aller faire la job qu'il a à faire à l'endroit où il doit aller le faire pour faire entendre l'évangile aux gens qui doivent entendre l'évangile. Et ça, c'est tout un autre aspect que nous ne voyons souvent pas lorsqu'on est en train, nous, d'annoncer l'Évangile et qu'on a à cœur d'annoncer l'Évangile. Mais dans le passage ici, on voit très bien que Jésus est simplement, à travers des circonstances qui semblent être complètement hors du contrôle de Dieu parce que les Juifs veulent tuer Paul, parce que les Romains viennent lui mettre les fers aux pieds, le jettent en prison. Tout simplement, ce qui est en train de se passer, c'est que Jésus est en train de dispatcher son homme, l'envoyer à l'endroit où il doit aller, précisément pour pouvoir faire le job qu'il a à faire, qui est simplement d'annoncer l'Évangile. Simplement annoncer l'Évangile. Notre job à nous, c'est juste d'ouvrir la bouche. Et donc, si Paul est en prison et que ça peut avoir l'air extrêmement décourageant, Jésus vient à ce moment-là le rencontrer et voici ce qu'il lui dit. « Courage, Paul! » Tu as été mon témoin ici à Jérusalem, tu dois être mon témoin maintenant à Rome. Tu dois être mon témoin à Rome. Il faut que tu sois mon témoin à Rome. Ce n'est pas les paroles d'un gars qui ne sait pas où on s'en va. Quand Jésus apparaît à Paul ici, on n'entend pas les paroles d'un gars qui n'est pas au contrôle de la situation. C'est non négociable. Jésus-Christ dit à Paul, il faut que tu ailles à Rome, tu vas aller annoncer l'Évangile à Rome et c'est ça qui va se passer. Parce que j'ai décidé que c'est ça qui allait se passer. Et donc, quelqu'un qui est au contrôle des opérations, même si le travail de Paul, c'est simplement d'annoncer l'Évangile, il y a quelqu'un qui est au contrôle des opérations. Jésus sait qui doit entendre l'Évangile. Jésus sait qui doit annoncer l'Évangile à ces gens-là. Beaucoup plus tôt dans son ministère, en fait, peu de temps après sa conversion, lorsque Paul est devenu chrétien, le Seigneur avait apparu à Paul. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Nouveau Testament, les apparitions, c'est pas fréquent, d'accord? Ça fait comme pas partie de la vie chrétienne à tous les jours. Peu de gens ont eu des apparitions. Paul a eu un appel exceptionnel sur sa vie, choyé plusieurs apparitions. C'est venu avec beaucoup de coups de bâton aussi, d'accord? Fait que vous ne voulez pas les apparitions nécessairement, c'est bon? Mais plus tôt dans son ministère, Paul a une autre apparition du Seigneur. C'est peu de temps après sa conversion. Paul, son background, son histoire à lui, un pharisien, un juif, tout ça, assez intégriste même, comme on l'a vu la semaine dernière. Et donc, lorsque Paul s'est converti, il est à Jérusalem, tout ça, il revient à Jérusalem, puis là, il se dit, écoutez, c'est absolument extraordinaire. Dieu aime les Juifs de Jérusalem. Ma conversion à moi est tellement phénoménale. C'est la manière que Paul voit les choses. Ma conversion à moi est tellement phénoménale. Quand les gens vont entendre que Saul de Tarse s'est converti au christianisme, moi qui persécutais les chrétiens, moi qui les haïssais, moi qui les jetais en prison, les gens vont tomber sur le dos. Voyez-vous, il a changé de camp, il est avec des chrétiens, puis il est en train de se dire, écoutez, c'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Il est allé me chercher moi, ça va avoir un impact incroyable. À vue humaine, Paul se dit, I'm the man. Parce que c'est incroyable comme conversion. Mais c'est Jésus qui dirige les opérations. C'est lui qui sait qui doit annoncer l'évangile à qui. C'est lui qui sait comment ça fonctionne. Alors, le Seigneur apparaît à Paul et on trouve ça dans juste un chapitre plus tôt, dans Acte 22 au verset 18. Je vous lis ici. C'est Paul qui raconte son expérience et voici ce qu'il dit. « Un jour, je priais dans le temple et le Seigneur s'est montré à moi. Je l'ai vu et il m'a dit, « Dépêche-toi, sors vite de Jérusalem. En effet, ses habitants n'accepteront pas ton témoignage à mon sujet. » J'ai répondu, et répond au Seigneur. J'ai répondu, « Seigneur, ils le savent bien. J'allais dans les maisons de prière chercher ceux qui croient en toi. Je les jetais en prison, je les faisais frapper. Quand on a fait mourir Étienne, ton témoin, j'étais là moi aussi. J'étais d'accord avec ceux qui le tuaient et je gardais leurs vêtements. » Et Paul se rappelle et il dit, « Le Seigneur m'a dit, « Va, je t'envoie au loin vers tous ceux qui ne sont pas juifs. » Jésus savait. Ils n'accepteront pas ton témoignage sur moi. Jésus sait qui doit annoncer l'évangile à qui. Il le sait. C'est lui qui est en train de diriger. Alors, il va dispatcher son homme pour aller faire une job précise. Maintenant, lorsqu'on pense à Paul, certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, oui, c'est correct. C'est correct pour Paul, parce que Paul avait des visions. Jésus apparaît à Paul, pour lui c'était quelque chose, c'était une époque, c'était un temps, tu sais, toute cette période-là de miracles, c'était un temps. Ça ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui, Yannick. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a des visions, d'accord? C'est vrai. Mais je voudrais juste vous rappeler que Paul a prêché souvent l'Évangile sans récolter de fruits. En fait, il a annoncé l'Évangile à beaucoup plus de monde qui n'ont jamais accepté la bonne nouvelle qu'à un nombre de personnes qui se sont converties. Mais ça se passe aussi comme ça, encore aujourd'hui, sans nécessairement toujours qu'il y ait des visions. Jésus-Christ demeure au contrôle. C'est lui qui dirige encore les opérations. Et je vais vous l'illustrer à travers une expérience personnelle. Je pense que je l'ai déjà partagée à toute l'Assemblée. Certains d'entre vous, vous connaissez cette histoire-là. Mais c'est simplement pour illustrer qu'encore aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui dirige. C'est lui qui envoie les bonnes personnes au bon moment. Ça s'est passé dans mon jeune temps. Il y a 20 ans, d'accord, au début de ma vie chrétienne, fait que c'est vrai que ça fait un petit bout de temps, mais au début de ma vie chrétienne, peut-être une ou deux ans après ma conversion, lorsque je suis devenu chrétien, bien, je priais pour mon père, je priais pour quelqu'un qui était cher à mon cœur et qui ne connaissait pas le Seigneur à l'époque, et donc je priais pour lui. Et puis, à un certain moment donné, je m'étais relâché. J'avais commencé à négliger de prier pour lui. À cette époque-là, mon père voyageait beaucoup dans le cadre de son travail, beaucoup de voyages à l'international. Alors, à cette époque-là, il est en Turquie. Istanbul, d'accord? Loin des yeux, loin du cœur, peut-être. Je me suis relâché, j'ai arrêté de prier pour lui, découragé. Après un certain temps, à un certain moment donné, j'entrais en moi-même, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, non, mais si moi, je ne prie pas pour lui, qui va prier pour lui? Qui va le faire? Alors, je me suis repenti, puis j'ai dit, « OK, Seigneur, il faut que je prie pour lui. » Maintenant, il y avait un hic, comme je vous dis, il était à Istanbul. On pouvait s'écrivait un peu de contact. Alors, il y avait quand même un problème. Je pouvais prier, mais si je voulais mettre des pattes en prière, comme on dit, et puis pouvoir lui parler du Seigneur, il y avait un petit problème de distance ici. Alors, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, puis j'ai commencé à dire au Seigneur, « Seigneur, je me repens d'avoir négligé de me tenir à la brèche pour le salut de mon père, de prier pour lui. » Je me repens de ça. Certains d'entre vous vous rappelez cette histoire-là. Mais j'ai commencé à prier, puis j'ai dit, « Seigneur, il va falloir que tu envoies quelqu'un d'autre lui annoncer l'Évangile là-bas. Tu vas avoir besoin que tu envoies quelqu'un qui va pouvoir lui annoncer l'Évangile sur place là-bas. » Mais quelques semaines plus tard, je reçois un courriel d'un monsieur qui s'appelle Guy Leduc, missionnaire en Turquie. Guy m'écrit, il dit, « Bonjour Yannick, on ne se connaît pas vraiment. Est-ce que tu n'aurais pas... un père qui s'appelle Jean-Pierre Étier. Il travaille à Istanbul actuellement. Imaginez la surprise. Et on commence à échanger des courriels ensemble. Et Guy commence à me raconter. Il commence à me raconter. Istanbul, c'est une petite place pour les Québécois, d'accord? Et donc, lorsqu'il y a quelqu'un de Montréal qui est là-bas, ça se parle, puis finalement, tu finis par le savoir. Et donc, quelqu'un, il avait dit, « Hey, il y a quelqu'un d'autre qui vient de Montréal. » Ils se sont rencontrés pour apprendre. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Que les deux, ben Guy, si vous connaissez sa mission, c'est un gars qui aime l'escalade, ça fait partie de ses projets de géologie, tout ça. Mais mon père aussi, c'est un féru d'escalade. Pour découvrir, lorsqu'ils se sont rencontrés, que tous les deux avaient un partenaire d'escalade, un grand ami à eux, avec qui tous les deux avaient fait de l'escalade. Et donc, ils se sont liés d'amitié à ce moment-là. Et Guy commence à me raconter, j'ai pu aller manger avec lui et son épouse, et j'ai pu lui partager l'Évangile. Jésus-Christ est au contrôle des opérations. Et donc, Guy n'a pas eu une vision. Il n'était pas dans sa chambre, puis tout d'un coup, Jésus lui apparaît, puis il dit, « Hey, il y a un gars de Montréal qui est à Istanbul à qui il faudrait que tu aies annoncé l'Évangile. » Parce qu'il y a quelqu'un qui prie pour lui des milliers de kilomètres plus loin. Mais de manière souveraine, Dieu a entendu mes prières. Et quelques semaines plus tard, Guy Leduc est en train de témoigner, d'annoncer l'Évangile à mon père qui est là-bas à Istanbul. Encore aujourd'hui, Jésus-Christ dirige les opérations. C'est lui qui sait qui doit annoncer l'Évangile à qui. Et c'est lui qui est en train d'envoyer simplement des gens pour faire le travail qu'ils ont à faire pour pouvoir annoncer l'Évangile. Alors peut-être que vous priez pour des proches, pour vos enfants, pour des gens que vous aimez. Vous priez pour qu'ils puissent recevoir l'Évangile, vous leur témoignez, vous leur annoncez l'Évangile. Peut-être qu'ils ont grandi, ils sont moins présents, vous les voyez moins souvent. Peut-être que c'est vous qui allez les conduire au Seigneur, mais peut-être pas non plus. Voyez-vous, ce qui est intéressant dans le passage ici, c'est que Jésus prend le temps de dire à Paul, « Ils ne recevront pas ton témoignage. Toi, tu vas aller ailleurs. » Maintenant, si on prend le temps juste de comprendre ce qui est en train de se passer ici et de prendre connaissance avec la suite de l'histoire, c'est pas parce que Jésus dit à Paul « Ils ne recevront pas ton témoignage » que ces gens-là ne croiront jamais dans l'Évangile. Parce que quelques années plus tard, lorsque Paul revient à Jérusalem, là où on est dans le passage, quand il arrive à Jérusalem, qu'est-ce qu'on apprend? La majorité des apôtres sont restés dans le secteur, sont restés en Israël, dans la région de Jérusalem, ont annoncé l'Évangile. Et quand Paul revient plusieurs années plus tard, qu'est-ce que les apôtres ont à lui dire? Vois les milliers de personnes qui ont reçu, qui ont cru en Jésus-Christ. Alors, c'était pas Paul qui était le gars de la situation, malgré le fait qu'à vue humaine, Paul aurait pu se dire, oui, mais s'ils ne croient pas avec mon témoignage à moi, avec mon histoire à moi, comment est-ce qu'ils vont faire pour croire? C'est le Seigneur qui s'occupe de ça, ce n'est pas moi. Ma job à moi, mon travail à moi, c'est simplement de reconnaître qu'il est souverain. C'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui nous envoie là où on a un travail à faire. Il est souverain là-dedans et avoir confiance qu'il va diriger tout cela. Mon travail à moi, c'est simplement de semer. Peut-être que ce ne sera pas toi qui vas conduire tes enfants, Seigneur. Peut-être qu'ils vont aller travailler dans des camps chrétiens. Peut-être qu'ils vont voyager. Peut-être qu'ils vont partir à l'autre bout de la terre. Puis tu vas être en train de prier. Puis Dieu va envoyer un missionnaire qui va aller vers eux, qui va leur dire, « Hey, tu viens de Montréal? » J'ai une histoire pour toi à te raconter. Ah ouais, c'est la même que mon fils n'arrête pas de me radoter depuis des années. Peut-être que ce ne sera pas vous. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ n'est pas au contrôle. Tu témoignes, tu annonces l'Évangile, les gens pour qui tu pries ne semblent pas intéressés, continue à prier pour eux. Dieu peut se servir de toi, Dieu peut se servir de quelqu'un d'autre. Continue simplement à avoir confiance qu'il est là, qu'il entend tes prières. Dans le passage, on voit non seulement que Jésus-Christ dispatche ses témoins là où il le veut, mais il est au contrôle aussi des circonstances. Comment est-ce que les choses vont se dérouler? Jésus-Christ est aussi en train d'orchestrer les circonstances. Comment c'est en train de se passer? Le livre des Actes est fascinant parce que un des éléments qu'on voit au niveau de la personne de Dieu puis de la théologie, tout ça, on parle de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, c'est lui qui dirige et ce Jésus-là qui... de son vivant sur terre, contrôlait les éléments, exerçait des miracles, tout ça. On le voit après ça, parti, puis en même temps présent par son esprit, puis en train de diriger les circonstances pour que les hommes puissent entendre l'Évangile. Et des fois, on se demande, mais comment ça fonctionne, toute cette affaire-là, la souveraineté de Dieu, puis le choix des hommes à l'intérieur de tout ça. Dans le passage ici, sans élucider tout ce mystère-là, je crois vraiment qu'il y a une part de foi D'accord? Et il y a une part qui demeure mystérieuse pour nous, mais il reste que je l'observe dans les Écritures et que je l'observe dans mon expérience personnelle. Je viens de vous l'illustrer, il me semble, de manière très éloquente à travers cette histoire avec Guy Leduc. D'accord? Dans le passage ici, on voit la souveraineté de Dieu, comment il va orchestrer des choses et comment le libre arbitre ou les choix que l'homme a à faire va venir concourir dans ça. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Jésus apparaît à Paul et il dit, il faut que tu témoignes à Rome. Ça va se passer comme ça, c'est assez clair. Volonté de Dieu, c'est quoi? Tu vas témoigner à Rome. C'est Jésus qui l'a dit, ça va se passer comme ça. Ça doit se passer comme ça, c'est lui le patron. Ça va se passer comme ça. Comment est-ce qu'on va arriver là? Il y a un complot qui se trame contre Paul. 40 hommes font le vœu de ne plus manger, de ne plus boire, jusqu'à temps qu'ils aient éliminé Paul, jusqu'à ce qu'ils l'aient tué, d'accord? Maintenant, par une coïncidence divine, on va l'appeler comme ça, le neveu de Paul en vient à apprendre ce complot-là. Comprenez que si 40 hommes ont décidé qu'ils allaient éliminer quelqu'un, faire un assassinat, t'en parles pas dans les corridors de cette affaire-là. C'est certainement pas un flot qui va entendre parler de ce complot-là. Les gars ont juré de ne plus manger ni boire jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Il n'y a pas personne qui parle de ça. Vous comprenez? Les gars commencent à avoir faim après 3 jours. Tu fermes ta trappe, tu attends de faire la job pour pouvoir te payer un gros lunch. Mais par une coïncidence divine, le neveu de Paul apprend cela. Et donc, il se rend auprès de Paul en prison puis il dit, « Voici, j'ai entendu parler d'un complot contre toi. » Souveraineté de Dieu. Je veux dire, tu peux être sceptique, mais quand ça se produira pour toi, que tu seras en prison puis que ton neveu viendra te voir pour te donner cette information-là, crois-moi, t'as beau ne pas croire dans l'existence de Dieu, à ce moment-là, tu vas dire, il y a quelque chose à quelque part, ça se peut pas. Je te dis. Maintenant, où intervient le choix de Paul? Imaginons un instant que Paul, qui est un homme de foi, apprend cette information-là puis il dit, c'est intéressant. Jésus m'a promis. Jésus m'a donné sa parole. Je vais me rendre à Rome, donc je ne peux pas mourir ici. Mais il y a un complot contre moi. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec ça. Et il décide de rien faire avec cette information-là, s'appuyant uniquement sur la souveraineté de son Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Jésus serait apparu une deuxième fois pour dire « Hello! J'ai donné de l'info, il faut que tu l'envoies à l'officier, tu sais. Sers-toi de ta tête pareil, même si Dieu est souverain. Continue à te servir de ton intelligence. » Je ne sais pas. Voyez-vous, pour Paul, qui croyait définitivement dans la souveraineté de Dieu, il savait qu'en tout temps, dans toutes circonstances, il devait simplement se servir de son intelligence. Il n'y avait pas de conflit pour lui là-dedans. Et donc, Paul, lorsqu'il apprend ça, il dit à son neveu, « Écoute, garde ça pour toi, demande à parler au supérieur, de parler au tribun, il faut que cette information-là se rende là. Dieu t'a donné cette info-là. » J'ai l'impression de me retrouver dans le livre d'Esther ici, là. Si vous êtes familier avec les Écritures. Dieu s'est arrangé pour que tu aies cette info-là. Va la donner simplement au tribun, ça va me sauver la peau. Et voyez-vous, on observe à l'intérieur de ce passage simplement les choix que l'homme a à faire et la souveraineté de Dieu qui concourent ensemble. Il y a un mystère dans tout ça. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, d'accord? Mais je sais que Dieu est souverain. Je sais qu'il dirige les opérations. Je sais que là où il m'a envoyé, là où il m'a placé pour annoncer l'Évangile, il est souverain dans ça. Et je sais que sa souveraineté ne remet pas en question que j'exerce toute mon intelligence parce que c'est lui qui me l'a donné. Et donc, je vais toujours agir au meilleur de mon intelligence en toutes circonstances où il me place pour sa gloire, pour pouvoir annoncer l'Évangile. Mon travail à moi, votre travail à vous, c'est de croire que Dieu est souverain. C'est de croire que Jésus est en train de diriger des opérations, qu'il est souverain sur la place où tu te trouves pour annoncer l'Évangile. Il est souverain aussi sur ton histoire. Et simplement avoir foi qu'il va diriger et les gens qui doivent recevoir l'Évangile vont recevoir l'Évangile. Et cette transaction-là entre Dieu et les hommes, c'est entre Dieu et eux. Mon travail à moi, c'est simplement d'annoncer l'Évangile. Ton travail à toi, c'est simplement d'annoncer l'Évangile. Après ça, qu'est-ce qui se passe là? C'est eux qui savent comment ils vont répondre à l'Évangile. C'est eux qui prennent cette décision-là. Mais je dois accepter la souveraineté de Dieu et collaborer avec l'Esprit-Saint là où il me place pour pouvoir annoncer l'Évangile. Avec foi qu'il est en train de diriger, qu'il n'en a pas échappé une. puis je me retrouve à la mauvaise place au mauvais moment, puis ben, finalement, j'aurais pas dû avoir ce job-là, c'est juste que Dieu était distrait. Il a échappé celle-là. Laissez-moi l'illustrer avec Kim Fook. D'accord? Plusieurs d'entre vous, vous étiez ici lorsque Kim Fook est venu donner son témoignage, est venu raconter son histoire. Kim Fook, c'est la petite fille au milieu de la photo qu'il y a là. C'est la petite fille qui a été brûlée au napalm, d'accord? C'est une photo connue partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est une belle grande dame. On peut aller à la prochaine image. Et donc, Kim Fook, c'est cette petite fille qui s'est faite brûler au napalm pendant la guerre du Vietnam, d'accord? Parce qu'un soldat américain a fait une erreur, pesé sur un bouton, largué des bombes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc, elle a été brûlée au troisième degré, entièrement sur toute le derrière de sa personne, au complet. Ce qu'on voit pas là, c'est que son dos est complètement brûlé de haut en bas. Cette petite fille-là, qui ne venait pas d'un milieu chrétien, a éventuellement entendu parler de l'Évangile. À travers l'Évangile, elle a accepté la souveraineté de Dieu sur sa vie, ce que Dieu avait permis comme souffrance dans sa vie. Parce que ce qu'on ne voit pas sur la photo d'aujourd'hui, où elle est toute belle et souriante, vous pourriez le voir sur Internet, toutes les brûlures sur son corps, sur l'arrière, ça continue à procurer énormément de douleur aujourd'hui. Ça va rester jusqu'à sa mort. Mais à travers l'Évangile, à travers l'amour de Dieu pour elle, manifesté en Jésus-Christ mort sur la croix, elle a pu se réconcilier avec Dieu. Accepter la souveraineté de Dieu, accepter l'amour de Dieu, accepter qu'elle était elle-même pécheresse, qu'elle n'était pas parfaite et qu'elle-même avait fait des choses qui n'étaient pas bien. Elle s'est réconciliée avec Dieu. Pour trouver plus tard, dans la puissance de l'Évangile, la force pour pardonner à ce soldat-là, à ce militaire-là qui a déclenché la bombe. Elle l'a rencontré en personne pour lui dire, je te pardonne cette erreur-là qui a détruit ma vie. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'aujourd'hui, voici comment Kim Fook interprète la souveraineté de Dieu sur sa vie. Aujourd'hui, elle est ambassadrice de bonne volonté pour les Nations Unies. Et donc, elle se retrouve dans toutes sortes de contextes où aucun d'entre nous ne nous retrouverons jamais. Elle prend des repas avec des rois et des reines, avec des chefs d'État, avec des présidents, avec des premiers ministres. Et lorsque j'étais allé manger avec Kim Fook, puis qu'on jasait ensemble, elle dit, « Tu sais ce que j'aime faire à un moment donné pendant le repas? » J'aime me tourner vers eux puis leur dire, « Et vous, est-ce que vous savez où est-ce que vous allez être si vous mourrez aujourd'hui? Allez-vous dans la présence de Dieu? » Parce que Kim Fook voit la souveraineté de Dieu dans sa vie comme un appel, une mission à aller annoncer l'Évangile à des gens à qui le commun des mortels ne pourront jamais annoncer l'Évangile. Kim Fook ne peut probablement pas tout expliquer ce mystère de la souveraineté de Dieu et du libre arbitre, les décisions des hommes dans tout ça. Mais elle sait, elle croit et elle a vu dans sa vie la souveraineté de Dieu pour l'envoyer, pour orchestrer les choses afin qu'aujourd'hui elle puisse annoncer l'Évangile à des gens à qui vous et moi n'annoncerons jamais l'Évangile. Jésus-Christ est encore au contrôle des opérations. Il est encore en train d'envoyer les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit pour pouvoir répondre l'Évangile. Il est encore en train d'orchestrer les circonstances. Et si c'était vrai dans la vie de Paul, si c'était vrai pour que Guy puisse annoncer l'Évangile à mon père, si c'est vrai dans la vie de Kim Fook, c'est vrai dans vos vies, dans ma vie. Là où vous vous retrouvez actuellement dans votre vie, vous place dans une circonstance unique, en contact avec des gens que vous seul êtes en contact, que ce soit dans votre famille, que ce soit des voisins, que ce soit des collègues de travail, que ce soit des gens que vous allez rencontrer au hasard pendant la semaine. C'est vous qui êtes envoyé là. Vous ne savez pas, lorsque vous annoncez l'Évangile, qu'est-ce que ça va donner, tout ça. Mais nous le faisons avec cette confiance, avec cette foi que Dieu est au contrôle, qu'il sait qui doit entendre l'Évangile et qui doit annoncer l'Évangile à cette personne. Et la transaction qui se passe entre Dieu et eux après, c'est entre Dieu et eux. Mais je peux avancer avec cette confiance profonde que mon Dieu est en train de m'envoyer au bon endroit. Parce que certains d'entre vous, vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la bonne place. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la bonne place parce qu'il y a des souffrances qui sont liées à cet endroit-là où vous êtes, dans ces relations où vous êtes, et vous n'êtes pas heureux là-dedans. Vous n'êtes pas heureux là-dedans, et donc ça vous amène plutôt à vous concentrer sur le fait que j'ai des chaînes aux pieds. Mais Paul avait des chaînes aux pieds à ce moment-là. Puis il y a des gens qui veulent me tuer. Il y a des gens qui m'haïssent, qui ne m'aiment pas la face. Peut-être que c'est comme ça au travail. Et donc, je ne suis pas à la bonne place. parce qu'il y a beaucoup d'inconfort lié à ça. Il y a beaucoup de souffrance liée à ça. Je suis pas heureux dans ce contexte-là. Dieu demeure souverain. Il envoie ses gens là où il veut pour faire le travail que nous avons à faire. Notre travail à nous, c'est simplement de parler de l'amour de Dieu. Des fois avec des fers aux pieds, des fois avec le dos brûlé. Généralement, pour nous, avouons-le, dans des contextes pas mal plus confortables, avec un petit café dans une belle petite place agréable ou en train de prendre une bière avec quelqu'un puis jaser de l'Évangile. Dieu demeure souverain. Et non seulement Jésus dispatche ses témoins là où il veut pour aller faire un travail précis à cet endroit-là, non seulement il orchestre les circonstances afin que ça se passe comme lui le veut à ce moment-là, d'une manière souveraine, mystérieuse, concourt nos décisions et la souveraineté de Dieu, mais Jésus aussi protège sa mission et ses témoins. Il est souverain aussi pour protéger ceux qu'il envoie dans cette mission-là. Voyez-vous, lorsqu'on retrouve Paul dans ce passage-là, il y a des gens qui veulent le mettre à mort. Les Juifs ont décidé de le mettre à mort. Les Romains l'ont arrêté, l'ont jeté en prison. Vous savez, ça va mal. Il y a d'autres chrétiens qui sont déjà morts. En fait, Paul a présidé à la mise à mort d'Étienne. Jacques a été tué. Et donc, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Mais Jésus protège sa mission et protège ses témoins. Et Jésus a dit à Paul, « Paul, il faut que tu te rendes à Rome. Tu vas te rendre à Rome. » Il y a 40 Juifs, 40 hommes, d'accord, qui font un vœu devant Dieu. Dieu sert à beaucoup de choses là, dans ce passage-là, vous voyez. Font un vœu à Dieu de ne plus manger, de ne plus boire, jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Je me rappelle la première année de ma vie chrétienne, j'ai lu ma Bible, puis j'arrive dans le livre des Actes, puis moi j'avais une question qui me passait par la tête à ce moment-là. Je sais pas vous, mais chaque fois que j'ai lu ce passage-là, j'avais toujours la même question qui venait en tête, parce que Jésus a dit que ça se passerait pas comme ça. Ces 40 gars-là ont dit qu'ils ne mangeraient pas, qu'ils ne boiraient pas, tant qu'ils ne pourraient pas tuer pas. Je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui est arrivé avec ces gars-là? Est-ce qu'ils sont morts de faim? Est-ce qu'ils ressemblent à ça? Parce qu'eux autres, ils ont fait un vœu devant l'Éternel. Mais Jésus-Christ protège sa mission et ses témoins. Pour faire le travail qu'on a à faire, si vous n'êtes pas familier avec l'histoire de Paul, éventuellement, ils vont mourir martyrs. Éventuellement, ils vont mourir martyrs. Ça n'a pas dû être un beau moment. Citoyen romain, probablement que ça a été comme « fou, on coupe la tête ». Il y avait des règles, on fait ça avec classe. On évite la lapidation, c'est ça que je veux dire, d'accord? La crucifixion aussi, ce n'est pas l'idéal pour les citoyens romains. Mais éventuellement, quand son travail va être terminé, il va être appelé au ciel. Et donc, lorsque ma mission est terminée, je suis rappelé au ciel. En attendant, Jésus-Christ protège sa mission, protège ses témoins, afin qu'on puisse faire le travail qu'on a à faire. Et donc, lorsque je suis là et puis je veux annoncer l'Évangile, je n'ai pas à m'inquiéter comme si Dieu n'était pas au contrôle, puis des choses menacent l'orientation de ma vie, des choix que j'ai à faire, puis des choses comme ça. Je peux simplement faire confiance à Dieu. Faire confiance qu'il est là. Jésus lui-même avait dit dans Matthieu 10, je vais vous lire un passage, où Jésus dit qu'on n'a même pas besoin vraiment de s'inquiéter de ce qu'on va dire quand ça va être le temps d'ouvrir la bouche. Voici le passage dans Matthieu 10, versets 17 à 20. C'est Jésus qui est en train de parler avant son arrestation, sa crucifixion, tout ça, puis il fait une prophétie qui s'est accomplie drôlement dans la vie de Paul. « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. » Paul a vécu tout ça, d'accord? « Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois. » Tous les prochains chapitres du livre des Actes, c'est ça que ça va nous raconter avec la vie de Paul. « Pour servir de témoignage à eux et aux païens, aux non-juifs. » Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Une seule chose à faire de notre côté, accepter la souveraineté de Dieu, prendre son message qui a transformé nos vies et le répandre tout simplement, avec une foi entière qui est en train de diriger les opérations. Et si j'annonce l'Évangile et le message que j'apporte semble tomber dans une terre qui n'est pas fertile, qui ne répond pas à cela, je n'ai pas à me décourager. C'est peut-être pas moi qui vais avoir l'opportunité de conduire ces gens-là au Seigneur. Le Seigneur est au contrôle de ces choses-là, c'est entre ses mains. Et si je suis en train d'annoncer l'Évangile à ma famille, à mes enfants, la tentation est là, je vous le dis, la tentation est là, après un certain nombre d'années, de dire « Oui, mais je l'ai essayé, j'ai essayé d'annoncer l'Évangile, puis il n'y a pas eu de résultat. » Oui, mais depuis ce temps-là, est-ce que Dieu n'a pas mis d'autres personnes sur ton chemin? C'est simplement que ton appel de mission a changé. Tu as été transporté ailleurs, ouvre encore la bouche, annonce l'amour de Dieu tout simplement. Continue à annoncer l'Évangile, parce que lui est au contrôle des circonstances. La seule chose que Paul avait à faire, c'était d'accepter l'appel de mission, de répondre à l'appel de Jésus, présent, j'annonce, j'ouvre la bouche, j'annonce l'Évangile. C'est la seule chose que tu as à faire si tu es chrétien. Accepter l'endroit où Dieu t'a placé et répondre présent. Seigneur, je vais chercher toutes les circonstances pour pouvoir annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, là où je suis, envers et contre tous. Si tu m'as placé là, tu es souverain, tu sais. Tu sais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à faire. Est-ce que tu acceptes l'appel que Dieu a placé sur ta vie? Parce que là où tu es placé, c'est un endroit unique. C'est toi qui es le missionnaire dans ce contexte-là. Peut-être qu'il y en a 3-4 aussi autour de toi. Mais c'est vous qui êtes placé là. C'est vous qui êtes appelé à annoncer l'Évangile à cet endroit-là. Oui, mais Seigneur, je ne sais pas, j'ai pas la facilité à parler. Voici la promesse que Jésus a dit. Quand ce sera le temps, tu vas pouvoir le faire. Alors ouvre la bouche, parle de Jésus. Ah, peut-être que tu vas bafouiller, peut-être que ça va de la fou ton affaire. Paul disait, priez pour moi afin que j'aie du courage, que j'aie de la hardiesse, que j'aie les paroles pour annoncer l'Évangile. Prie pour cela, mais ouvre la bouche. Est-ce que tu acceptes cet appel-là? Ou est-ce qu'à force de découragement à cause des circonstances, la non-réponse des gens, t'en es venu à te taire et à ne plus annoncer l'Évangile? Prends courage, parce que Jésus-Christ est souverain. Et là où il t'a envoyé, c'est lui qui t'a envoyé là pour que tu annonces l'Évangile. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. J'aimerais ça attirer votre attention sur un autre aspect de l'amour de Dieu qui sort de ce passage-là, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose d'autre de très beau qui est là dans le passage. On parle de la souveraineté de Dieu, puis il peut y avoir quelque chose de troublant dans tout ça. Mais en même temps, j'aimerais vous aider à voir combien d'énergie, combien de volonté Jésus-Christ déploie afin que tant de personnes entendent l'Évangile. Voyez-vous, Jésus n'est pas seulement venu mourir sur la croix pour nos péchés, mort et ressuscité le troisième jour, ciao, bye, je m'en vais au ciel, puis l'histoire se termine là. Ce que je vois dans le passage ici, c'est la souveraineté et l'amour de Dieu. Et donc, ce que Paul fait, ce que Dieu fait, c'est qu'il va prendre un intégriste, Paul, comme on l'a vu la semaine dernière. Il va l'exposer à l'Évangile. Ce gars-là va se repentir de sa folie de persécuter Jésus-Christ et le christianisme. Il va devenir chrétien. Il va prendre cet homme-là qui, par définition, culturellement, n'avait pas beaucoup d'amour pour les non-juifs. Et il va l'envoyer vers les païens, vers les non-juifs. Il va même aller jusqu'à le faire mettre en prison afin qu'il soit transporté à Rome, qu'il se retrouve devant des autorités, là où Paul n'aurait pas pu annoncer l'Évangile. Et dans tout cela, je vois la souveraineté et l'amour de Dieu qui veut que l'Évangile soit répandu à tous les hommes. Et ça, ce n'était pas seulement vrai à l'époque de Paul, c'est vrai encore aujourd'hui. Parce que cette église-ci, l'église de l'espoir, c'est le fruit de quoi? Deux personnes, monsieur et madame Élisée Beau, il y a une 60aine d'années, qui étaient en France, dans leur terre natale, et qui ont eu à cœur de quitter leur terre natale pour partir en mission, pour venir ici au Québec. À une époque où ce n'était pas facile d'annoncer l'Évangile, parce qu'il y avait une espèce de monopole de l'Église catholique qui faisait que tout simplement, tu ne pouvais pas être francophone et protestant. C'était inacceptable, d'accord? Mais eux sont venus là-bas avec ça sur leur cœur, de venir dans une terre qui allait être difficile, qui allait être aride, parce que Christ les a dirigés à faire cela. Il a mis ça sur leur cœur. Ils sont venus ici. Ils ont commencé à annoncer l'Évangile. Et aujourd'hui, 50, 60 ans plus tard, des dizaines, voire des centaines de personnes ont connu l'amour de Dieu tout simplement parce qu'ils ont accepté la souveraineté de Dieu sur leur vie. Avec ce pas de foi dans des circonstances extrêmement difficiles sur le plan financier, il y avait toutes sortes de défis complètement fous, mais de s'en venir ici et de venir annoncer l'Évangile. Et donc, chacun d'entre nous, d'une certaine manière, on peut être le fruit de cet acte de foi-là qu'eux autres ont fait. Et aujourd'hui, il y a des missionnaires qui partent partout sur la terre annoncer l'Évangile parce que Jésus-Christ est en train de diriger les opérations et il sait qui doit entendre l'Évangile. Voyez-vous, Dieu n'a pas abandonné les hommes. Dieu aime les êtres humains. Et tout ce qu'il fait, c'est qu'il prend ses témoins puis il les envoie. Il les envoie pour annoncer l'Évangile. Maintenant, ce qu'il y a de plus beau dans cette histoire-là, c'est pas le fait que Jésus est au contrôle. Parce que je veux simplement vous rappeler en terminant. Tout ça aurait été absolument impossible. Impossible. Si Jésus-Christ n'était pas premièrement parti lui-même dans son ordre de mission, quitter son Père, venir sur la terre, vivre parmi les hommes pour être crucifié, pour être conduit à la croix et accepter l'appel souverain de son Père sur sa vie à lui. Pour être mené à cette croix, être crucifié sur cette croix, lui qui n'était pas un pécheur comme nous, lui qui était le Fils de Dieu. Verser son sang sur la croix, afin que ceux qui placent leur foi en lui, dans ce message d'amour de Dieu pour nous, puissent être pardonnés de leurs péchés et réconciliés avec Dieu. Voyez-vous, Jésus-Christ est non seulement celui qui dirige les opérations, mais il est l'auteur même de toute cette mission-là. Celui par qui tout est rendu possible. Alors, je ne sais pas où est-ce que toi, tu es dans ta foi. Je ne sais pas si tu as décidé de placer ta foi en Jésus-Christ. Et ce matin, on a parlé de la souveraineté de Dieu, puis il y a des questions qui sont troublantes dans tout ça. Oui, mais vous avez peut-être déjà entendu parler des termes comme « élu » puis tout ça. À la fin de la journée, ces questions-là deviennent très secondaires parce que ce qui se passe, c'est une transaction entre toi et Dieu. Et c'est toi qui sais dans ton cœur si Jésus-Christ est en train de t'appeler actuellement. C'est toi qui sais si ce que Christ a fait sur cette croix résonne dans ton cœur. Et si c'est le cas, c'est une œuvre de l'Esprit Saint, où il est en train de t'appeler à accepter son amour. Parce que si ce n'était pas le cas, je serais en train de sommeiller puis ça tomberait simplement dans une terre qui ne répond pas. Mais si dans ton cœur ce message d'amour-là résonne, c'est parce que l'Esprit Saint est en train de t'appeler à accepter l'amour de Jésus-Christ sur cette croix pour toi. À placer ta foi en lui pour le pardon de tes péchés et à entrer dans une vie nouvelle, une vie où tu vas avoir cette certitude que ta vie n'est pas laissée au hasard. T'entre dans une mission où tu vas aller partager l'amour de Dieu à ton tour. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux t'adorer ce matin. Je veux t'adorer parce que tu nous as aimés. Parce que tu m'as aimé, Seigneur. Et si cette histoire-là date de 2000 ans, elle est encore réelle aujourd'hui, elle est toujours actuelle, Seigneur. Parce que ton esprit continue à faire cette œuvre pour répandre ton amour auprès des hommes, partout sur la terre, à travers tes témoins que tu envoies, Seigneur. Seigneur, tu sais combien de fois je me suis arrêté de témoigner. J'ai perdu courage à annoncer l'Évangile parce que je vivais cette frustration d'annoncer sans jamais voir de résultat, Seigneur. Trop longtemps, des mois à annoncer l'Évangile sans voir une âme répondre à ce beau message d'amour. Et je me suis arrêté, je me suis tué, Seigneur. J'ai fermé ma bouche, le cœur découragé. Tu me rappelles dans ce passage ce matin, Seigneur, que tu es souverain. Je veux te demander de venir fortifier ceux qui ont ralenti la course, ceux qui ont commencé à se taire, ceux qui ont oublié que tu étais là, que tu les avais placés là où ils sont pour pouvoir parler de l'amour de Dieu, pour pouvoir parler de l'Évangile. Je prie, Seigneur, de venir les fortifier par ton esprit. Toi, tu sais que tu les envoyais là. Viens, Seigneur, convainc-les qu'ils sont des missionnaires là où ils sont et que tu diriges les opérations. Je prie, Seigneur, pour ceux qui entendent l'appel de ton esprit, qui commencent à entrevoir ton amour pour les hommes, Seigneur, à travers ce vieux message qui peut avoir l'air tellement religieux et commence à voir ton amour, ton existence, Seigneur. Tu es bien là, d'une manière mystérieuse, tu agis au milieu des hommes. Seigneur, je te prie de parler à leur cœur par ton esprit afin qu'ils puissent répondre à ton amour, répondre à l'Évangile, à ton sacrifice, Seigneur Jésus. C'est toi qui connais cette transaction, ce que tu veux transiger avec eux dans leur cœur, Seigneur. Et accorde-leur cette grâce de répondre à ton amour, Seigneur, de s'approcher de toi humblement en plaçant leur foi uniquement dans ton sacrifice, Seigneur Jésus, pour être pardonnés de leurs péchés, réconciliés avec toi, Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tout cela est rendu possible uniquement à cause de la croix de Jésus-Christ. Amen.